Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Hélène Denis qui est de retour en ce mardi 27 janvier 2026. Merci encore une fois à Denis Martin Chabot, fidèle au poste les lundis par les temps qui courent. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis, bonjour tout le monde.
Mathieu, vous avez survécu aux frettes, au froid.
Et oui, j'ai aussi reçu un magnifique cadeau ce matin.
Ah!
Je ne parle pas d'une bordée de neige, mon cher André, mais j'ai reçu des betteraves faites maison.
Oui, par la belle Françoise.
Eh oui, je... voilà.
Communément appelée ma mère.
Je suis ébobie.
Mathieu adore les betteraves marinées et particulièrement celles de ma mère, je
c'est les meilleures.
Oui, et on vous a donné la recette, donc
en
vous allez
plus,
pouvoir en faire.
Écrite à la main. Ça me touche.
Oui. Alors, je suis certaine que ma mère est à l'écoute et elle doit être touchée aussi par vos remerciements bien sentis. Et dès que j'ai donné le pot, il a dit « Ah, j'ai mangé ça pour quoi? » En avez-vous déjà mangé là, pour déjeuner?
Non, mais...
ça va aller pour l'heure du lunch.
S'il y en reste.
Le gourmand, Mathieu.
Avec le pâté chinois, c'est délicieux.
Oui, avec le ragoût de boulette aussi.
Et avec le ragoût de boulette.
Ouais, c'est bon avec pas mal de choses.
Ouais.
Oui, oui. Alors, bonjour André Lacombe.
Bonjour Hélène.
Et vous, vous avez survécu au froid, à la neige aussi, qui est tombée en bonne quantité, pas comme en Ontario, là, mais dans la grande région métropolitaine, on en a eu pas mal.
Absolument.
Et dans d'autres régions du Québec également.
C'était très froid, mais dimanche, c'était magnifique. J'ai même fait une promenade sur le fleuve.
Au petit
tour. Sur les glaces.
Ah oui.
Ah, c'était féerique.
Oui,
pas de
on
vent
a...
avec le soleil, là, c'est...
De
la
belles
lumière
images.
Est splendide.
Oui, oui, tout à fait, des paysages de cartes postales.
Oui,
alors,
tout à fait.
Au lieu de se plaindre, admirons.
Admirons.
Et essayons d'en profiter. Quand il fait froid, on reste moins longtemps là,
oui,
à l'extérieur.
On s'habille.
Oui, oui, il y a des vêtements pour ça. Quand on a la chance d'en avoir.
Exactement.
Ouais.
Oui.
Alors, André, aujourd'hui, l'éphéméride du 27 janvier, s'en est passé des choses le 27
beaucoup
janvier?
Beaucoup de choses, des naissances extraordinaires aussi, toutes sortes de choses. C'est une journée très active dans l'histoire le 27 janvier, avec, comme toujours, prénom du jour et thème de la journée mondiale.
Parfait. On vous retrouve tantôt. On aura aussi de la visite. En fait, c'est une entrevue téléphonique qu'on fera avec le comédien Victor Andrés Treyes Turgeon, qui joue dans la pièce Boîte noire, qui connaît un grand succès chez Duceppe actuellement, une pièce écrite par Catherine-Anne Toupin. Alors, on lui parlera autour de 10h15 après la chronique économie de Michel Poitevin, qui, lui, nous parlera de nouveaux crédits pour TPS du fédéral. On aura plus de détails avec Michel, qui, je vous le rappelle, est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Et tout ça agrémenté de très belles chansons. Et on y va avec une qui, j'espère, va vous plaire. C'est Gaétan Roussel.
S'arrêter si on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
Help myself. fait traverser des océans, des déserts.
Help myself de Gaëtan Roussel.
À la une de la presse plus d'aujourd'hui, sonnette contre le crime, c'est à lire. À Trois-Rivières, les policiers peuvent accéder aux images enregistrées par les sonnettes de porte intelligentes de plus de 760 citoyens afin de les aider dans leurs enquêtes, mais l'usage de cette technologie doit être strictement encadré, disent des experts. C'est un texte de Karim Benissaïm. Elles ne portent pas d'uniforme, mais leurs yeux électroniques outillent les policiers à Trois-Rivières. Plus de 760 citoyens ont inscrit leur sonnette intelligente à un registre de caméras de surveillance, une initiative locale qui fait des petits ailleurs dans la province. En 2018, les policiers mènent une enquête concernant une victime intoxiquée à la drogue du viol. La femme avait été droguée à son insu dans un bar. Elle était partie et on voulait voir ce qui est arrivé, si quelqu'un l'avait suivi, raconte Patrick Beauchamp, technicien en identité judiciaire à l'origine du projet. Je me suis rendu compte que ma carte de caméra était super garnie sur les artères commerciales, dégarnie dans les quartiers résidentiels. C'est là qu'on a eu l'idée de ce registre. L'enquête sur la disparition de Cédrica Provencher aurait été complètement différente avec ces sonnettes connectées de type Ring ou Google, ajoute M. Beauchamp. Si on avait eu plus de caméras, le fameux véhicule rouge, on aurait pu le suivre. Ce registre, qui comprend en outre 1615 commerces et institutions, permet aux policiers de repérer sur leur ordinateur de bord les caméras de surveillance inscrites dans un rayon de 200 mètres d'un événement signalé. On demande ensuite aux citoyens, au commerce ou à l'organisme de faire parvenir la vidéo si on estime qu'elle peut aider à faire avancer l'enquête. L'initiative, qui ne coûte pratiquement rien à la ville de Trois-Rivières, a été reproduite dans plusieurs municipalités québécoises, notamment Gatineau, Longueuil et Sherbrooke. L'objectif, c'est de résoudre des crimes. Ce n'est pas de partir une chasse aux sorcières ou faire une partie de pêche pour débusquer quelqu'un qui n'a pas fait son stop. Il n'y aura pas d'abus, dit Isabelle Blanchette, qui est porte-parole de la direction de la police de Trois-Rivières. Les policiers n'ont pas un accès direct aux images, indique-t-elle, et la participation des citoyens demeure volontaire pour chaque requête. Que disent les experts en privé? Le registre est-il une bonne idée? C'est la question que pose Fanny Arcand, toujours dans la presse. Les images de caméras de surveillance sont des moyens efficace d'identifier des contrevenants, bien qu'il existe peu de preuves que la présence seule de caméras décourage les crimes, souligne Vincent Gautret, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public. Les caméras de surveillance sont désormais très abordables, voire banalisées, ce qui encourage leur multiplication dans l'espace public. Il est donc simplement commode pour les forces de l'ordre d'utiliser ces outils dans leurs enquêtes, souligne Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public. Mais l'usage de ces images doit être strictement encadré, souligne l'expert. Là où il peut y avoir un problème, c'est s'il n'y a pas de garantie suffisante que personne d'autre que la police ne peut accéder à ces caméras, explique-t-il. À la une du Journal de Montréal, vague de bornes électriques vandalisées, voleurs de cuivre effrontés. On en parle en page 3, c'est Francis Pilon qui signe le texte. Des voleurs de cuivre sévissent depuis des semaines en coupant des câbles de bornes de recharge pour voitures électriques, causant de coûteux dommages à des entreprises et résidents montréalais. Des infrastructures appartenant à la compagnie Flo, au circuit électrique d'Hydro-Québec et même des petites entreprises comme PC Suprême ont toutes été la cible de ces vandales dans les deux derniers mois. La quantité de cuivre contenue dans les câbles des bornes de recharge est négligeable et difficile à extraire, L'effort nécessaire pour extraire cette quantité minime de cuivre n'en vaut pas la peine, selon l'entreprise québécoise Flow. Et le phénomène est d'ailleurs loin d'être unique à Montréal. Depuis le début de l'année, des câbles de bornes de recharge pour voitures électriques coupées font les manchettes aux États-Unis, en France, en Angleterre et en Australie. Et également, on parle des jours difficiles pour le député Kelly, crise au PLQ. Depuis la suspension de son épouse, Marois Risky, du caucus qui a plongé le Parti libéral du Québec dans la crise ayant eu raison de Pablo Rodriguez, le député Greg Kelly n'a pas remis les pieds au Parlement. Il sera de retour aujourd'hui, un peu stressé après avoir flirté avec le trou noir de la dépression et de l'épuisement professionnel. C'est à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. À la une du Devoir, jamais sans leurs armes. À la boutique d'armes à feu Top Gun, où le Devoir s'est rendu, le marchand et des clients discutent de Trump et de l'ICE. Le village de Poland, dans le Maine, est l'endroit parfait pour se sentir loin du plateau Mont-Royal ou de Rosemont, écrit Marco Fortier, habitat naturel des urbains à vélo. Une des attractions du village de 5300 âmes est la boutique Top Gun, réputée pour son stand de tir et son choix inégalé d'armes à feu. C'est la place à visiter pour acheter un fusil semi-automatique AR-15 ou pour discuter des derniers faits d'armes de l'ICE, la police fédérale qui traque les immigrants illégaux aux États-Unis. Les images placardées sur la façade du bâtiment donnent le ton. Un crâne humain aux couleurs du drapeau américain surplombe deux carabines et le slogan « La liberté ou la mort, deuxième amendement, 1789 ». Une affiche célèbre aussi la victoire de Trump qui va sauver l'Amérique. C'est Marco Fortier qui signe le texte « Il est à Poland ». Des écoles tirent un trait sur les sessions d'examen. De plus en plus d'établissements au Québec mettent fin aux semaines bloquées pour les évaluations, un virage qui inquiète des enseignants. Cette décision permettra de dégager environ 7 journées qui étaient auparavant consacrées à des journées d'examen selon le CSS des affluents.
Je m'assois, je lève les yeux au ciel, la voici, je la vois.
Thank you.
chanson qui a bien vieilli, je trouve, Angela de Jerry Boulet.
Ben oui, Mathieu, vous dodelinez de la tête.
Dodelide, oh!
Et cette voix de Jerry Boulet, ben, unique
cette
en
voix,
son genre.
Comme il chantait.
Et c'est pas mal grâce à vous qu'on a entendu
ben
cette
oui,
chanson.
C'est un beau
pas
lien.
Pas mal, c'est 100% grâce à vous.
C'est un beau lien. Ben.
Oui.
Merci.
Parce que c'est un
c'est
prénom,
le prénom du jour.
Du jour.
Les Angèles, bonjour à toutes les Angèles, parce que c'est la Sainte Angèle aujourd'hui.
Ah, en connaissez-vous, vous, des Angèles?
Non, non. Je connais Angèle Arsenault,
oui,
comme
oui.
tout le monde, évidemment.
La regrettée Angèle Arsenault.
La regrettée.
Ah, bien, Angèle Dubeau.
C'est vrai, Angèle oui. Dubeau, mon Dieu.
Son salut, c'est les télécoles.
Elle est toujours vivante, par exemple.
Toujours vivante.
Alors, Angèle, c'est en référence, ou Sainte Angèle, je devrais dire, en référence à Angèle Mérici, fondatrice de l'ordre de Sainte-Ursule de Brescia, en Italie, au 16e siècle. Et Angèle, c'est un prénom grec qui signifie messager ou ange, mm-hmm. ange, messager, hein, ça va ensemble. Donc, on fait évidemment les Angela, tous les noms dérivés d'Angèle, Angela, Angéline, Angélique. Alors, bonne fête à toutes ces dames.
Oui, Marie-Ange,
Mais,
non,
sans
pas
doute,
vraiment?
En partie du moins.
Oui, OK.
En partie, parce que Marie, c'est une autre journée.
Oui, 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 c'est une autre fois, une
Alors,
autre journée.
Et pour la journée mondiale, ben on a... je pense que c'est dit dans plusieurs médias aujourd'hui, depuis le 27 janvier 2006, l'UNESCO dédie cette journée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et réaffirme chaque année son engagement à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. Et pourquoi le 27 janvier, me demanderez-vous?
Pourquoi, oui?
Alors, je vous réponds. Parce que cette date marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945.
Et depuis 20 ans, donc, l'UNESCO dédie cette journée à la mémoire des victimes
voilà.
de l'Holocauste. Vous poursuivez, André, avec quelques faits marquants qui sont arrivés un 27 janvier.
En 1859, Georges-Étienne Cartier, premier ministre du Canada uni à l'époque, c'est 8 ans avant la Confédération, déclare qu'Ottawa, qui s'appelait alors Bytown, sera la capitale du Canada uni. En fait, c'est la reine Victoria qui lui a soufflé ça à l'oreille. Elle prend cette décision parce qu'elle ne veut pas privilégier soit les anglophones, soit les francophones, et Ottawa compte 50 % de francophones et 50 % d'anglophones à l'époque. Alors,
oui.
Montréal et Toronto sont écartés d'emblée, et c'est Ottawa qui récolte ce titre.
On comprend mieux pourquoi le marché s'appelle le marché Bytown à Ottawa.
Exactement.
Marché que j'aime beaucoup.
Tout à fait.
En 1888, maintenant.
Fondation à Washington de la Société nationale géographique. Hein? C'est une institution célèbre, une des plus importantes organisations scientifiques et éducatives non lucratives dans le monde, aux intérêts multiples. Hein? On parle ici de géographie, archéologie, sciences naturelles, mais aussi de promotion de l'environnement, de protection historique et d'études des cultures et de l'histoire du monde. Donc, champ d'intérêt très vaste. Et le célèbre magazine à la couverture jaune est lancé la même année.
Ah
Alors,
oui.
On l'a tous connu dans notre enfance,
On en
magazine.
A des piles dans nos sous-sols.
Oui. En 1916, le Manitoba est la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes. Bravo le Manitoba. 2 ans avant le fédéral, à part ça.
1926, donc il y a 100 ans.
Oui, l'inventeur écossais John Baird dévoile devant la Royal Institution de Londres son procédé de réception d'images sur tube cathodique qu'il nomme...
TV.
La TV. Le téléviseur.
Oui, on dit,
oui.
On dit la télévision, mais le mot,
oui.
le meuble, c'est la télévision.
Oui, c'est
L'appareil,
ça.
C'est le téléviseur.
Le téléviseur. Ouais. Alors, il présente à une assistance... médusé, il me semble que je les vois la bouche
ah,
ouverte.
Oui, hein?
La première émission télé montrant le visage de 2 ventriloques.
Ah, en plus!
En plus. Et en 1930, il commercialise le premier récepteur grand public.
1930, mon ouais. père t'a même pas né.
Ça a dû prendre du temps, on le sait, en fait, c'est dans les années 50 que la télé a pris son envol.
Ouais.
Donc, ça devait être réservé à une caste très, très nantie à l'époque.
Comme sûrement. L'arrivée de la télé couleur, là.
Oui.
Absolument. Il y en avait une par rue.
Oui, à peu près. En 1961, début de la construction du métro de Montréal, dont la première mouture terminée en 1966, aura coûté 215 millions. Hein? Mais à noter, là, je te rappelle comme ça, juste pour tourner le fer dans la plaie, on est rendu à plus de 7,5 milliards pour 5 stations supplémentaires sur la ligne bleue.
On est passé de millions à milliards.
Oui, puis c'est plus que l'inflation, ça. En 1973, signature des accords de Paris qui mettent fin à 10 années de guerre entre les États-Unis et le Nord-Vietnam. En 1978, Dupuis Frères, le grand magasin à rayons, ferme ses portes.
Qui était situé dans le centre-ville.
Là où est la place Dupuis présentement.
Oui, près du restaurant d'Adjovanni.
D'Adjovanni. Toute une époque, ça. C'était le Eaton des francophones, Dupuis Frères, là. Faut-il le rappeler? Et en 1996, Lucien Bouchard devient le 4e chef du Parti québécois suite à la défaite référendaire et à la démission de Jacques Parizeau.
Il y a 30 ans aujourd'hui, donc.
30 ans.
On le salue. Allez-y maintenant avec quelques dates anniversaires.
En 1756, naissance à Salzbourg, en Autriche, d'un prodige, ni plus ni moins, Wolfgang Amadeus Mozart. On dit que sa mémoire exceptionnelle lui permettait de retranscrire des pièces complètes après ne les avoir entendues qu'une seule fois.
Il est mort tellement jeune, hein?
35 ans, je pense.
Donc, il aurait 270 ans aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais. Et toujours aussi vivant dans nos cœurs et dans notre tête, grâce à sa musique. Splendide. En 1814, Eugène Viollet, le duc, architecte français surtout connu pour ses restaurations de grandes constructions médiévales, dont Notre-Dame de Paris, entre 1845 et 1864. Hein, la mouture actuelle de Notre-Dame de Paris, là, qu'on a reconstruit à l'identique, là, c'est lui, c'est Eugène Viollet-le-Duc, et aussi l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Donc, il ne faisait pas dans la petite construction, non. Ce monsieur le duc. En 1832, l'écrivain anglais Lewis Carroll, auteur d'Alice au pays des merveilles. C'est sa rencontre avec les enfants de la famille Liddell et les histoires qu'il crée pour eux qui sont à l'origine, tout d'abord, des aventures d'Alice sous terre. Pourquoi sous terre? Vous souvenez-vous du début du conte d'Alice au Pays des Merveilles?
J'ai lu ça, ça fait quand même assez longtemps, mais ça se passait quoi dans un terrier?
C'est un lapin en retard qui dit « je suis en retard, je suis en retard ». Et là, Alice le suit dans son terrier. Donc, c'est de là que ça vient. Ça, il réalise ça en 1863. Et quelques années plus tard, paraîtront Alice au Pays des Merveilles, donc ces contes-là, mais dans une forme plus achevée.
Quelle histoire merveilleuse!
Oui, une imagination sans borne.
Fantastique!
Il était bègue avec les adultes, Lewis Carroll, mais pas avec les enfants.
Ah oui!
Alors, il avait un cœur d'enfant et une âme d'enfant.
Wow!
En 1920, le chanteur country-western Willie LaMotte. Je suis triste. Vous vous souvenez sûrement du Ranch à Willie, Hélène?
Oui, hein? Oui.
C'est
ça passait au Canal 10.
Au Canal 10, Télémétropole. Mathieu trouve ça drôle. De 70 à 76.
Oui. Mais on ne regardait pas ça chez nous. Mais je ne dis pas
moi
ça
non
parce
plus.
Il y en a qui étaient... Tu sais, il y en a qui snobaient ça.
Oui.
Mais avec le temps, on a appris à connaître Willie Absolument. LaMotte et à Absolument. Découvrir son talent, autant comme comédien que comme chanteur.
Absolument. En 1931, le romancier et nouvelliste controversé Mordecai Richler, j'ajouterais détestable, qui se faisait un malin plaisir de critiquer les Québécois francophones.
Un excellent écrivain, je me souviens.
Absolument.
De Saint-Urbain, entre autres.
Aussi bon écrivain qu'il était détestable.
Ah, je l'ai jamais rencontré.
Et raciste envers les Québécois francophones, faut-il le dire. Faut pas avoir
André
peur
de Sylvain, dire. Wow, en 1940.
En 1940, hein, l'époux de Chantal Paris pendant un certain temps.
Se sont mariés à la télévision.
Oui.
À Jeunesse d'aujourd'hui.
86 ans aujourd'hui, André Sylvain.
Ah oui.
Bonne fête, André Sylvain.
Bonne fête. Je ne sais pas si Chantal va l'appeler, même s'ils ne sont plus ensemble.
1948, le danseur et chorégraphe russe Mikhail Baryshnikov, qui a marqué beaucoup son époque et son art. C'est lors de la tournée canadienne du ballet Bolshoï en 1974 qu'il disparaît soudainement pour demander l'asile politique au Canada. Et le reste de sa carrière prestigieuse se déroulera aux États-Unis. En 1961, Benoît Gouin, comédien.
Oui.
On l'a vu dans plusieurs productions au cinéma et à la télé, présentement dans Indomptable, entre autres.
Un grand acteur.
Oui, vraiment. 65 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire, M. Gouin.
Et en 1964, l'actrice américaine Bridget Fonda, fille de Peter Fonda et nièce de Jane.
Oui, qu'on ne voit plus. Hein?
Sœur de Peter. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on l'a vu, Bridget Fonda.
Oui, on l'a vu au cinéma dans les années quoi, 80 environ.
Un peu plus tard, peut-être.
Oui,
90-2000. Ouais.
Et du côté des décès?
En 1901, grand personnage, pas seulement artistique, mais aussi politique, un des compositeurs d'opéra italiens les plus influents du 19e, Giuseppe Verdi.
Mm.
Oui. Il demeure aux côtés de Garibaldi et Cavour, une des principales figures à l'origine de la République italienne au milieu, fin 19e siècle. En 1930, le peintre et illustrateur québécois Charles Huot, c'est une de ses œuvres qui orne la salle des délibérations de l'Assemblée nationale. L'œuvre s'appelle « Débat sur les langues ». C'est monumental, 25 pieds par 12. C'est incroyable. En 1983, Louis de Funès.
Ah!
Eh oui.
Un génie du comique.
Connaît la gloire tardivement à l'âge de 49 ans avec le premier film de la série des gendarmes, soit « Le gendarme de Saint-Tropez ».
Dans le temps des fêtes, j'ai regardé un documentaire sur lui, sa vie, sa carrière. Là. C'est un être qui n'était pas nécessairement toujours apprécié parce qu'il était tellement exigeant.
Ouais.
Il cherchait la perfection, mais quand on regarde ses films, on dit « Quel
extraordinaire! » Un sens du timing et du comique incroyable.
Comédien. Guy Sanche.
Guy Sanche en 88, Bobino a seulement 53 ans. Je rappelle que Bobino, c'est plus de 5000 épisodes de 1957 à 1985. Et en 93, André Roussimoff, mieux connu sous le nom du géant ferré, grand lutteur professionnel, 7 pieds 4 pouces, plus de 500 livres, un monstre.
Ah oui,
un gentil monstre, semble-t-il.
Un géant. On va écouter Géant Beaupré tantôt, là, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est un autre géant. Merci André, à la prochaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est la chronique économie avec Michel Poitevin qui parle de nouveaux crédits pour TPS au fédéral, André. Le gouvernement Carney a annoncé hier une bonification du crédit pour la TPS. Bonjour, je vous ai appelé André. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Parce que André vient de partir du studio. Et bien, là, je suis concentrée sur vous. Michel, je vais vous présenter comme il faut. Vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Alors, à vous la parole.
Oui, alors, vous avez une bonne nouvelle, le crédit de la TPS. C'est un crédit qui est versé à tous les trois mois aux contribuables là, qui ont des revenus plus faibles. Bien, ce crédit va être bonifié de 25 ans par année au cours des 5 prochaines années. On estime qu'il y a environ 12 millions de Canadiens qui vont profiter de cette bonification. Et en plus, cette année, le gouvernement Carney va verser, juste pour cette année, là, un autre 50 % au milieu de l'été qui va se rajouter aux 25 %. Donc, cette année... le crédit va augmenter significativement. On appelle cette mesure l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Et puis, pour vous donner un peu une idée, là, ça va, pour une personne seule, elle va avoir 402 $ de plus cette année, ou à terme, 527 pour un couple, puis 805 $ annuellement pour un couple avec deux enfants. Donc, combien vont recevoir? Donc, ça, c'est de plus. Alors, en ce moment, une personne seule reçoit 540 $ par année. Pour cette année, elle va avoir 950 parce qu'il y a la bonification supplémentaire du 50 % là, qui se rajoute. Mm-hmm. Et puis, pour les quatre années suivantes, 700 $ par année.
Bon, la première année, la première année, c'est presque le double en augmentation?
Pas tout à fait. Là, c'est le 25 % plus le 50 % du crédit actuel, donc 75 % de plus. Donc, ça va faire 175 % d'augmentation pour la première année. Pour une famille avec deux enfants, on passe de 1100 à 1890 cette année. C'est quand même une bonne augmentation. Puis ensuite, ça va être 1400 $ par année pour les quatre années suivantes. Alors, comment... donc, les gens n'ont rien à faire. Là, il faut juste faire notre déclaration d'impôt, notamment celle de 2025 là, qui établit notre revenu. Puis ensuite, les paiements, comme ils sont déterminés automatiquement, puis le gouvernement verse le crédit pour la TPS comme il le faisait par le passé, les paiements bonifiés vont commencer au mois de juillet.
Alors, pourquoi le gouvernement Carney a-t-il bonifié le crédit de la TPS?
On en parle souvent, là, ça fait la manchette régulièrement dans les journaux. Il y a beaucoup d'insécurité alimentaire au pays. Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à se présenter aux banques alimentaires. Pour vous donner une idée, l'an dernier, là, l'organisme Banque Alimentaire Canada a déclaré qu'il y avait près de 2,2 millions de Canadiens qui, chaque mois, se rendent dans une banque alimentaire. Donc, c'est énorme. Si on regarde les chiffres, l'inflation des aliments, les prix alimentaires au Canada ont augmenté de 6,2% sur un an en décembre dernier. Là, ça a été annoncé, je pense, la semaine dernière, ces chiffres pour décembre, avec une hausse de 5% dans les épiceries et 8,5% dans les restaurants. Donc, c'est le niveau le plus élevé de l'inflation alimentaire depuis août 2023.
Ça coûte cher pour se nourrir.
Ça coûte cher. Les aliments principalement touchés, la viande, le poisson, les légumes et puis le café.
Ah oui, le café.
Oui, c'est ça. Moi, je n'en bois pas, donc je m'en sauve, mais ceux qui sont accros, ils sont obligés de payer plus cher. Si on regarde, par exemple, il faut regarder du côté des revenus également, parce que oui, le prix des aliments augmente. Si je regarde du côté des revenus, on a certains chiffres là, pour les années 23 et 24, 2023-2024. Dans l'ensemble du Canada, le salaire moyen a augmenté plus vite que l'inflation. Il a augmenté d'environ 5% par année, alors que l'inflation était de 5% la première année, puis 2% la suivante. Puis au Québec, on a un peu le même phénomène. Le salaire horaire a été en hausse de 3,8% depuis un an, alors que l'inflation était 1,6%. Donc, on voit que les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Puis c'était la même chose en 2025. En 2025, la rémunération moyenne hebdomadaire, donc le salaire moyen par semaine, a augmenté de 4,9% pour l'ensemble du Canada, puis l'inflation était à 2,1%. Alors, on pourrait se dire pourquoi le gouvernement Carney veut aider plus les Canadiens, mais ce qui arrive, c'est que les indices d'inflation, ça inclut l'alimentation, mais ça inclut un paquet d'autres biens. Puis on fait une espèce de moyenne pondérée de l'alimentation, l'énergie, le transport, le logement, etc. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à un taux, par exemple, de 2,1%. Par contre, pour les gens moins fortunés, bien, l'alimentation occupe une part de leur budget beaucoup plus importante que pour les gens qui sont plus fortunés. Et donc, eux, leur taux d'inflation effectif est plus élevé que le taux moyen. Là. Par exemple, dans le taux moyen, je ne sais pas, on dit l'alimentation, mettons 25%, c'est 25% de nos dépenses vont en alimentation. Mais pour les gens moins fortunés, bien, l'alimentation, c'est peut-être plus 40%. Alors, eux, ils subissent beaucoup plus d'inflation dans les faits que le Canadien moyen. Donc, le but du gouvernement, c'est justement d'aider ces gens-là qui sont affectés de façon plus importante là, par l'inflation alimentaire. Puis, j'ai vu passer un article, je ne l'ai pas encore lu, justement, sur les loyers. Par contre, les budgets, c'est communicant. Donc, si on aide du côté alimentaire, ben, il va peut-être en avoir un peu plus pour le loyer. C'est sûr que c'est pas facile, mais cette aide-là, ben, c'est positif pour beaucoup de gens dans le besoin.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été annoncées?
Bien, Ottawa va injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales. Puis ça, en fait, ça cible les banques alimentaires. Donc, on va aider les banques alimentaires puis les autres organisations locales, régionales ou nationales, à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin. Puis ça, je pense que c'est une bonne mesure aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, le crédit de la TPS s'adresse à des gens qui font des déclarations de revenus. Puis les gens qui sont vraiment dans des situations très précaires, souvent, ils ne font pas de déclaration de revenus, donc ils ne bénéficient pas de ce crédit-là. Alors, le 20 millions qui va aider les banques alimentaires, bien, par la bande, on espère aider ces gens-là là, qui font même pas de rapport d'impôts. Donc, je pense que ce sont de bonnes mesures qui ont été annoncées. Évidemment, on en voudrait toujours plus, mais certainement, c'est quand même positif ce qu'a annoncé le gouvernement Carney là, juste en ouverture de session parlementaire hier.
Bon, bien, merci beaucoup, Michel, pour cette chronique qui nous a éclairé sur les intentions du gouvernement Carney. Bien, pas juste des intentions, là, des annonces bien concrètes.
Des annonces, bon, ça va être effectif seulement en juillet, mais quand même, c'est quand même concret.
Oui, il y a certaines personnes qui disent que c'est parce que M. Carney veut qu'on vote pour lui, mais il y a toujours la politique là-dedans, ça c'est sûr.
Oui, c'est ça, mais en même temps, on vient d'avoir des élections, à moins qu'ils veulent lancer de nouvelles élections pour avoir un gouvernement majoritaire, mais il est presque. Donc, oui, on est quand même loin. On n'est pas en campagne électorale. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des motivations politiques derrière, mais j'ai l'impression qu'on veut s'attaquer un peu aux inégalités. Là, on ne peut pas tout résoudre d'un coup. Puis ça, c'est quand même une mesure positive dans ce sens-là.
Oui, alors soyons optimistes et soyons positifs et apprécions ce que vous nous avez annoncé, ce que Carney a annoncé et que vous nous avez transmis. Ça. Merci, Michel.
Exact. À la semaine prochaine. Au revoir.
Chanson qui vieillit pas, Le Géant Beaupré de Beau Dommage.
Tout à fait. On aimerait être une chanson qui ne vieillit pas. Mais c'est pas tous les jours comme ça qu'on se sent, en tout cas. On attend l'appel de Victor Andrés Treyes Turgeon, qui joue dans Boîte Noire actuellement au Théâtre du CEP et qui connaît beaucoup, beaucoup de succès. D'ailleurs, on n'arrête pas d'ajouter des supplémentaires. Et il y a déjà 20 000 billets de plus qui ont été mis en vente. J'ai vu une pièce toute simple qui a une force de frappe qui vaut le déplacement, qui s'intitule Caméra Obscura. C'est une pièce écrite et aussi jouée par Rachel Graton. C'était mardi soir dernier, soir de première, et la pièce s'intitule Caméra Obscura, une création donc de Rachel Graton, mise en scène par Alexia Burgère, un solo théâtral dans lequel Rachel Graton interprète Esther Nathalie Rita. Esther, la fille de Nathalie, petite-fille de Rita, mère de Nathalie. Rita qui collectionne les Bouddhas, qui un jour déménage parce qu'elle a perdu son mari. Elle s'installe tout près de sa fille et de sa petite-fille. Trois générations liées par la pauvreté, pas nécessairement intellectuelle, mais la pauvreté de ordinaire, là, on a de la misère à arriver, puis sur une scène qui est dénudée, Rachel Graton apparaît, elle est vêtue d'une sorte de tunique, gilet, pull turquoise, d'une jupe turquoise, et elle nous transporte dans un restaurant style restaurant de cuisine canadienne, un délicatessen ou un deli, et on comprend qu'on est en présence d'une jeune fille, Esther, et de sa mère, Nathalie, qui est serveuse et qui chante le soir dans un bar, le bar de Vic. Et Esther, la toute jeune, elle voit tout. Elle voit surtout que sa mère est amoureuse d'un homme qui ne l'aime pas, qui l'exploite. D'ailleurs, la scène, une des scènes fortes du solo théâtral, c'est celle où Nathalie explose, plutôt Esther explose et dit à sa mère Nathalie ses quatre vérités à propos de sa vie misérable. Alors, c'est sur la transmission d'une génération, ce qu'on garde ou pas, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est à peu près 1h15 de théâtre. On est complètement subjugué par Rachel Graton, qui est une très, très belle femme qui irradie sur la scène et qui interprète ces trois personnages avec énormément de précision, de clarté. Et elle nous touche. Alors, si vous aimez les performances théâtrales, je crois qu'il faut voir Caméra Obscura, qui est présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui, qui est publié, qui est situé sur la rue Saint-Denis. Et les représentations sont jusqu'au 14 février. C'est dans la grande salle du théâtre d'aujourd'hui, la salle Michel Rossignol.
Des années liquides sur tes joues de continent. L'amour nous fait translucide ton nez joue à l'océan. Ton corps est un millénaire et mes yeux
pour que le mal
ta main sur ma joue. Souffle, souffle dans mon cou. Les temps sont fous.
Les temps fous, une chanson de Daniel Bélanger.
Une nouvelle rubrique dans la Presse Plus d'aujourd'hui, et dans cette nouvelle rubrique, un humoriste se remémore de ces moments où son sens de l'humour a été mis à l'épreuve. Premier candidat, Simon Gouache, qui révèle mardi, aujourd'hui donc à l'Olympia, son quatrième spectacle intitulé « Pour l'instant ». C'est Dominique Tardif qui l'a rencontré. Ton spectacle le plus catastrophique. Un soir à Saint-Eustache, durant le rodage du nouveau show, j'ai fait une crise de panique. J'ai vu deux spectateurs partir et dans ma tête, c'était parce que j'étais rendu tellement poche qu'ils aimaient mieux s'en aller. J'ai perdu contact avec les réalités. J'ai fait le reste sur le pilote automatique. Quand ça riait, j'étais fâchée contre le public. J'avais le goût de leur dire « Arrêtez, ce n'est pas grave, là, vous n'êtes pas obligé de rire, je le sais que c'est pas bon. » Après le show, dans la loge, je voulais qu'on annule tout. J'étais sûre que j'étais finie. C'est mon directeur technique, Pat, qui m'a dit « Hey, t'as fait une crise de panique, hein? » Il m'avait vu en faire une au Jésus, il y a quelques années, un soir où j'étais bien, bien fatiguée. Pendant quelques semaines, durant mon dernier rodage, je n'avais aucun cœur sur scène. Ce n'était que du cérébral, que de l'humour mathématique. Je ne faisais plus de l'humour pour moi, mais en pensant aux commentaires que ça allait susciter. Mon show live a été un bon succès et je ne veux pas descendre en bas de ça. Ça m'obsédait, mais en même temps, si je fais 20 autres spectacles dans ma vie, il va y en avoir un moins bon que live là-dedans. Et puis, encore là, un bon show, ça veut dire quoi? Cette crise de panique-là, ça a été un gros wake-up call par rapport au plaisir qu'il faut que j'aie pour que ça marche sur scène. Le but premier, c'est d'avoir du fun. Ton moment de crowd work le plus pénible. Je n'en fais pas énormément, mais en corpo, un spectacle pour entreprise, c'est essentiel. C'était il y a plus de 10 ans, je jouais à la fin d'un tournoi de golf. Les gens avaient passé la journée au soleil et là, pendant qu'ils sont en train de souper, quelqu'un monte sur scène pour annoncer une surprise. Un show d'humour. Et tout de suite, j'ai vu qu'il n'avait pas envie. Mon matériel ne fonctionnait pas pantoute. Fait que je commence à leur poser des questions sur leur journée. Avez-vous vécu des choses particulières? Ils se mettent à répondre pendant 3-4 minutes. Ça se calme, donc je demande encore, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses particulières aujourd'hui? Et c'est là qu'un gars en arrière a crié « Moi, je suis allé voir un show d'humour et c'est l'humoriste qui demandait au public de fournir les anecdotes. » Je n'ai pas pu me relever de ça, rire. J'ai juste dit « Merci, c'est tout pour moi, bonne fin de soirée. » Ton moment le plus gênant sur scène. On me demande souvent si je peux souhaiter bonne fête à quelqu'un dans le public et je refuse toujours parce que j'ai peur d'oublier. Mais il y a une fois où j'ai dérogé à ma politique. Un militaire m'avait écrit pour me dire qu'il avait acheté des billets pour mon show il y a plusieurs mois, mais qu'entre-temps, il avait été déployé. Sa blonde allait être là avec une amie. Est-ce que tu peux le saluer pour moi, dire que j'aurais beaucoup aimé être là? Au rappel, je demande, est-ce que Andréane est là? Elle lève la main. Je dis, écoute, Francis aurait beaucoup aimé ça, être là ce soir. Il s'ennuie et je vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'était pas son chum, c'était son ex. Main dans le visage, c'était tellement malaisant. 10 minutes après le show, le gars m'a envoyé un message, juste un bonhomme sourire, fait que les messages personnalisés, c'est ça qui est ça. Le pire état dans lequel tu as donné un spectacle. Pour filmer la captation du live, je faisais 2 shows au Casino de Montréal et j'étais malade comme un chien. Grosse grippe, j'avais mal à la tête, j'avais fret, j'avais des frissons. En temps normal, l'adrénaline fait le travail et tu te dis « c'est mieux de faire le show à 90% que d'annuler ». Mais là, c'était une captation. Je voulais être à 110%. Finalement, ça a été correct, mais je me suis couchée après le premier show et mon tech est venu me réveiller à 21h28. Je dormais encore 2 minutes avant de remonter sur scène. La personne que tu es le plus fier d'avoir fait rire, Jean-Marc Parent, est venu voir mon show et est venu me voir à Brossard durant mon rodage. Et pour moi, Jean-Marc, c'est quelqu'un d'important. Il faisait de l'humour différent quand tout le monde faisait la même affaire. Quand je suis montée sur scène, il était direct en première rangée. Imagine la pression. C'est sa blonde qui avait acheté les billets et elle n'y avait pas pensé. Jean-Marc était mal, mais quand je l'ai vu rire, c'était quelque chose. Mon père, ça reste le numéro un. Il a longtemps eu énormément de difficultés à venir voir mes shows. Ça le stressait trop pour moi. Il faut dire que mon père est médecin et que c'est zéro son univers. Il n'a pas vu venir ça, pantoute, que je veuille devenir humoriste. Il n'a jamais essayé de me décourager, mais je pense que ça lui a pris un peu de temps pour être à l'aise avec ma décision. Je me souviens encore, c'était au Club Soda, quand je l'ai vu rire pour la première fois. Pas rire nerveusement, là, rire pour vrai. Et ça, c'était, petite émotion, c'était spécial. Ça reste spécial. Alors voilà pour cette rubrique toute nouvelle qui est dans la presse plus d'aujourd'hui, Mieux vaut en rire. Simon Gouache, donc, qui est en spectacle à l'Olympia aujourd'hui même et en tournée partout au Québec. Nouvelle, l'ancienne ministre libérale Kirsty Duncan est décédée à l'âge de 59 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer il y a plusieurs années. Née le 31 octobre 1966, elle a été élue 5 fois députée libérale de la circonscription torontoise d'Etobicoke Nord entre 2008 et 2025. Elle a siégé au cabinet pendant le premier mandat de Justin Trudeau en tant que ministre des Sciences et des Sports et brièvement en tant que ministre des Personnes handicapées. Ancienne scientifique et athlète, Mme Duncan avait pris un congé de maladie le 26 janvier 2023, mais avait continué à siéger en tant que députée. On présente nos condoléances à tous ses proches. Je peux pas croire que je ne l'avais pas présenté. La chronique libre avec Anne-Marie Aubin, oui, qu'on retrouve avec grand plaisir puisqu'on n'y était pas mardi dernier. Elle va nous parler d'un roman d'Heather O'Neill qu'elle a beaucoup aimé.
Vous pouvez
vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
Il fait toujours chaud avec nous. Notre beauté se mêle à celle du soleil. On existe maintenant et c'est tout. Un tigre exalté sur nous. Des choses heureuses, des fois atroces, des plus belles.
C'était La Bronze qui chantait la chanson « L'anarchie des jours heureux ».
Merci. C'est une chanson qui fait partie de l'excellente bande originale de la série « Rivalité passionnée ». Et là-dessus, on s'en va en Gaspésie. C'est là où vous êtes, Anne-Marie?
Oui.
Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour.
Vous avez lu et beaucoup aimé, je pense, « La capitale des rêves » d'Heather O'Neill.
Oui, beaucoup. Effectivement. C'est une brique, là. C'est quand même 394 pages.
Ah oui, presque 400 pages.
Ah oui. Et c'est une très belle traduction de Dominique Fortier, qui, je pense, a traduit tous ses livres. Et la page couverture est illustrée par la fille de l'autrice, Arizona, qui est une BDiste et qui, au premier abord, quand on voit ça, on pense à un roman jeunesse. Une jeune fille qui court avec une oie, qui déploie ses ailes dans une forêt. Et puis, bon, ben, effectivement, ça a un lien quand même avec la littérature jeunesse parce que Heather O'Neill en lit beaucoup. C'est une autrice, romancière, nouvelliste, poète, scénariste, journaliste qui est née à Montréal, qui a ensuite été vivre avec sa mère pendant quelques années aux États-Unis pour revenir avec son père à Montréal et qui, bon, maintenant vit de son œuvre. Et elle a parfois des chroniques en littérature jeunesse à la radio, donc elle lit beaucoup de livres jeunesse. Et l'enfance est au cœur de ce livre-là. C'est un livre difficile à résumer parce qu'il y a tellement de choses qu'on y trouve, mais ça se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle l'Élysée, qui fait penser à l'Ukraine, on peut penser à ça. Et l'héroïne, qui s'appelle Sophia, est la fille d'une illustre écrivaine qui s'appelle Clara Bottom, qui est là-bas, et c'est dans le texte, c'est pas moi qui l'invente, on dit que c'est la Simone de Beauvoir de l'Élysée. Donc, une femme très connue, qui a une parole qui porte, qui parle à la radio, qui publie, qui dénonce, qui finalement défend la liberté et qui est une féministe, évidemment. La petite, au début de l'histoire, elle a 14 ans. Et puis, bon, ben, elle a une relation difficile avec sa mère, donc elle comprend pas tout parce qu'elle est jeune encore. Puis sa mère, c'est une savante, on dit qu'elle a fait 7 doctorats, donc c'est une tête.
Rien de
et
moins.
Elle voit la guerre arriver, elle fait partie de la résistance et elle écrit un manuscrit pour que les gens sachent ce qui se passe dans son pays. Donc, elle la met sur un train avec d'autres enfants qu'on va supposément protéger, mais qu'on comprend bien qu'ils vont être éliminés. Puis dans sa valise, elle met le livre de contes préféré de sa fille Sophia. C'est Sophia le nom de la petite. Et puis c'est des contes, en fait. Et puis là, ben, elle a tout arraché les pages qui étaient dans le livre pour mettre à la place son manuscrit. Alors elle lui dit que tu as la grande responsabilité là, de traverser ça à la frontière pour que les gens sachent la vérité sur ce qui se passe dans notre pays. Elle dit que la première chose qu'on élimine quand il y a une guerre, c'est les artistes, les penseurs, les philosophes. Bon, alors elle dit que c'est important que ça se rende. Puis elle, la petite, quand elle roule sa valise, elle voit ça, compte des forêts de l'Élysée. Elle pense que sa mère a pensé à elle, mais non, quand elle voit à l'intérieur, elle est un peu frustrée. Et là, elle ne veut pas aller dans ce train-là, mais elle va finir par y aller. Et au premier arrêt, ils font descendre les enfants. Et là, tout à coup, c'est des camions de l'armée qui viennent chercher les enfants, évidemment, pour les éliminer. Mais elle se saute dans le bois. Et dans sa course, elle va perdre la valise qui contient ce fameux manuscrit. Puis là, ben, la quête du livre, c'est ça. Retrouver le manuscrit de sa mère, parce qu'elle dit que sans ça, sa mère va y vouloir toute sa vie. Et en sortant de cette forêt, elle rencontre une petite fille qui est habillée pauvrement et qui garde avec elle une oie vivante. Puis elle appartient à une ferme, sans doute. Et là, bon, ben, elle va échanger ses vêtements chics de la capitale, là où elle habitait. Puis elle va prendre les vêtements de la fille et l'oie. Et cette oie-là, par hasard, parle. Et elle se définit comme une philosophe, une intellectuelle publique qui a un discours à faire à la capitale. Elle veut livrer un manifeste sur la littérature oralement, parce qu'elle a ça dans sa tête. Et ouais. Puis là, ben, ensemble, elles vont essayer de trouver le fameux manuscrit. Puis elle, la petite, elle dit, c'est où ça, le marché noir? Je veux m'y rendre. Mais en fait, tout le roman est rempli de métaphores comme ça, vues par les yeux d'un enfant, mais c'est raconté à la troisième personne, quelqu'un qui nous démontre comment la chose se passe. L'autrice, c'est clair, c'est une femme féministe qui dénonce, puis qui défend, puis qui explique des sujets, puis qui réussit un roman de 400 pages sur une affaire grave comme la guerre, l'abus des femmes, la trahison, mais tout ça d'une façon poétique qui fait que la pilule passe mieux, que même on s'attache à des images fortes. On est arrêté dans notre lecture devant la facilité, le talent qu'elle a à tout intégrer, les métaphores, les odeurs, les coups. Beaucoup de références littéraires. On se dit, ah oui, qui est-ce qui a dit ça? Donc, c'est quel poète? Ah, c'est Baudelaire. Bon, évidemment, beaucoup d'allusions à des contes. La gardeuse d'oie, entre autres. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à elle. Je vous donne un exemple des métaphores qu'on y trouve. Elle dit que quand c'est la guerre, il y a des bruits qui se sont détachés de leur source. Elle dit, Sophia distinguait parfois des prières. Elles n'avaient pas été exaucées. Raison pourquoi elles flottaient dans le vent comme des vieilles pages de journaux que personne ne lirait. Ça disait, entre autres, pitié, par pitié, ne me laissez pas mourir. Donc, elle entend des prières comme ça. Les arbres dans la forêt chuchotent les nouvelles qui se passent au pays. Elle dit à un moment donné, Sophia éteignit son cerveau comme une lampe et tomba dans un sommeil profond. Donc, tout le temps, on est ébahi par des images qui sont fortes. En tout cas, si on aime les contes, comme moi j'aime les contes et l'imaginaire, on est ravi. Alors, pour elle, ces femmes-là, ce qui est important à travers sa grand-mère, sa mère et Sophia, c'est la transmission, tout ce qui doit être connu. Et selon sa mère, c'est par l'écriture et la littérature que ce projet va prendre forme. Et c'est en effet ce qu'elle veut faire. Alors, c'est un livre qui se distingue vraiment par son style poétique. C'est une allégorie tout le temps au pays de la politique, mais où il y a des fées, des champignons lumineux, de la magie tout le temps. Il y a des drames. Vraiment, la petite, elle est naïve et elle va être trahie. Elle va se faire avoir, elle va se faire voler. Mais on sent que tout se construit autour des femmes. Puis, ce qu'elle comprend, c'est que sa mère, elle a voulu lui transmettre la force qu'elle a pour qu'elle traverse la guerre. Mais elle, elle dit toujours, ma mère, elle se venge de l'accouchement qui a été difficile à cause de ça, elle m'en veut. Puis, bon, elle a beaucoup de culpabilité dont elle va se défaire tranquillement à mesure que le roman avance. Alors, c'est vraiment un livre qui est plein de symbolique, qui fait référence à la guerre. On reconnaît des personnages. Oh, oui, la guerre est... Elle est créée par un pays qui ressemble à la Russie ou autre.
Et vous avez dit l'Ukraine en début de chronique?
Oui, c'est ça. Puis on sent qu'il y a dans ça, dans cette guerre-là, une lutte contre... qu'en fait, on veut tout effacer, ce qu'a été ce pays-là, la langue, la culture. Alors, on commence par détruire tous les édifices culturels pour qu'il ne reste plus rien, finalement, et que ça ne serve à rien de retourner là. Et je dirais que le message principal de tout ça... c'est que quand il arrive un drame comme ça, on peut se reconstruire différemment, ailleurs, avec d'autres outils que la langue qu'on a parlé, par exemple. Alors, elle dit que tout le temps, elle trouve sa mère énervante, je ne sais pas moi, égoïste, qui ne pense rien qu'à elle. Puis quand elle part avec le manuscrit, elle lui dit, c'est ça, ton écriture est plus importante que moi. Elle dit oui, bien sûr. Mais à la fin, on comprend que c'est pas ça du tout. À la fin, on est ébahi par la générosité de sa mère et combien c'est touchant. Je ne révélerai rien, mais ça vaut la peine de comprendre ce qui se passe et de ne pas juger tout de suite. Puis en lisant sur l'auteur que je ne connaissais pas, l'autrice qui a été traduite, tous ses livres ont été traduits, puis des grands succès, puis elle a gagné des prix, j'ai compris que c'est un peu autobiographique ce qui est arrivé là-dedans. Parce que sa mère, effectivement, était une artiste.
La mère d'Heather O'Neill?
Oui, oui. Puis son père, comme dans l'histoire, la petite Sophia, son père est parti en Amérique. Puis lui, il est loin de la guerre, donc il est sain et sauf, mais il ne s'est pas occupé d'elle. Et dans cette histoire, dans son histoire personnelle, le père est un peu un père inconscient. On pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est vraiment un très beau roman que je suggère à tous ceux qui aime le conte, ou à tous ceux qui ont envie peut-être d'un peu de lumière dans l'époque sombre que l'on vit.
Même si le propos semble très dramatique.
Oui, parce que même s'il y a des drames, puis qu'on est fâché des fois, puis on dit « oh non, c'est pas vrai », il y a quelque chose à travers ça qui donne de la force au personnage et on comprend qu'ils se construisent. Puis elle passe de l'enfance à l'adolescence. Elle a 14 ans, donc elle comprend là, que son corps change et qu'elle devient une femme. Et puis là, elle va citer Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient. » Bon, alors, c'est jamais dit que c'est Simone de Beauvoir qui a dit ça, mais on le comprend, là, quand on lit, on voit qu'elle dit, par exemple, « Un important poète a dit quelque chose, et puis là, elle cite, puis on reconnaît les citations dans le livre. » Donc, il y a toute cette richesse de l'imaginaire, de la littérature, des contes, et de la magie que le décor peut inspirer à cet enfant-là qui est comme destiné à mourir, mais qui s'en sort finalement. Alors, c'est aussi à travers les chapitres, il y a des retours dans le passé. Puis on comprend qui était sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle a vécu avec sa mère quand elle était jeune, qu'est-ce qui était leur vie. Et ça nous permet de comprendre la richesse de la culture, tant chez sa mère, qui a une culture parce qu'elle a étudié, et sa grand-mère qui a une culture qui tient plus de la tradition orale, du conte, des légendes. Et c'est tout à fait magnifique. Enfin, moi, j'ai adoré lire ce livre-là et je le recommande à quiconque veut s'offrir un peu d'imaginaire par les temps qui courent et de lumière. Voilà.
Vous nous donnez vraiment envie et ça me faisait penser aussi à la chanson de Leonard Cohen, là où il parle de lumière. C'est ainsi qu'entre la lumière, there is a crack in everything. That's how the light gets in.
Oui, et puis il y a des gens qui ont comparé ce roman-là au film dont j'oublie le titre, La Belle. Attends, c'était une histoire de guerre qui était racontée par un papa qui dit à son enfant.
Ah, oh, La vie est belle. La vita est belle.
Oui, La vie est belle.
Oui, exact. Ah, quel film. Extraordinaire.
Ça me fait penser à ça parce que, justement, il y a un drame, mais à côté, il y a tellement d'imaginaire et de féerie, parce qu'il y a des fées partout là-dedans, que ça fait supporter la situation, je pourrais dire ça comme
très
ça.
Très inspirant. Et la page couverture fait aussi un peu penser à Alice au Pays des Merveilles, cette petite fille.
Oui. Oui, effectivement, elle s'en va dans la forêt, puis cette oie-là fait penser à La Gardeuse d'oie, qui est un conte de Grimm, où il y a justement des mauvais sorts qu'un enfant doit traverser à travers le temps. Alors, oui, un très, très beau livre.
Une grande autrice, ouais. Cette Heather O'Neill, qui est, soit dit en passant, pour ceux et celles qui aiment les petits potins, est la conjointe de Patrick Watson, un autre artiste grandiose.
D'accord.
La capitale des rêves, c'est le titre, publié aux éditions Alto. Une bonne brique, hein? 394 pages, il faut avoir quand même le temps.
Mais ça se dévore.
Ça se lit bien. Oui, ça se dévore. Traduit aussi, hein, c'est important de le dire de façon magistrale.
Très bien, de Dominique.
Oui, Dominique Fortier. Merci beaucoup, Anne-Marie.
À la semaine prochaine, au revoir.
je suis là. Je suis là.
Je suis là, nous sommes là, c'était Paul Carniello.
Oui, et ça aurait été tellement extraordinaire s'il avait été là, parce qu'il nous a appelés, puis là, on attend son appel. Je parle du comédien Victor Andrés Treyes Turgeon. L'émission n'est pas terminée, alors on espère toujours. Il est là, il est là. Alors, Mathieu, on y va tout de suite avec Victor Andrés Treyes Turgeon, qui joue dans Boîte noire, qui est la nouvelle création de Catherine-Anne Toupin, mise en scène par Justin Laramé, et qui connaît beaucoup de succès. On a ajouté des billets et il y a des supplémentaires, donc jusqu'au 22 février au Théâtre du CEP. Bonjour, Victor Andrés.
Oui, bonjour.
Est-ce que je vous appelle Victor Andrés ou Victor seulement?
Victor, c'est bien correct.
OK. Alors, Victor, qu'est-ce qui vous a le plus frappé à la lecture du texte de Boîte noire de Catherine-Anne Toupin?
Je crois que c'est déjà de se projeter dans l'avenir puis d'avoir ce souci de se demander qu'est-ce qui va arriver avec cette technologie-là, puis qu'est-ce qui peut se passer, c'est quoi ce monde, comment il pourrait être le monde dans lequel on vit, mais plus tard, suite aux effets de cette technologie-là. Puis, définitivement, déjà la partition qu'elle me proposait à l'audition, déjà là, c'était quelque chose de très, très captivant, puis ça piquait ma curiosité, puis je voulais explorer, connaître, découvrir ce personnage-là.
Et vous faites partie d'une distribution nombreuse, là. Vous êtes une dizaine sur la scène. Comment vous décririez votre personnage et sa place dans cet univers-là?
C'est un réfugié. C'est un réfugié dans un monde où on n'a pas pris soin de notre planète, chose qui semble être le cas en ce moment de toute façon.
Oui.
Puis, il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui se produisent partout. La planète essaie de se sauver, de se protéger. Puis il y a des zones désertiques en Afrique, il y a des tremblements de terre un peu partout. Puis, mon personnage, qui vient de l'Amérique du Sud, fuit vers le nord pour essayer de trouver un meilleur avenir pour sa famille ou ce qui lui reste de sa famille. Puis, puis c'est ça. Donc, lui, c'est un réfugié. Donc, il y a deux mondes un peu en même temps qui se côtoient dans cette pièce-là. Il y a le monde de la science ou de la technologie que nous, on décrit comme un peu les riches ou ceux qui ont les moyens. Puis, il y a le monde des réfugiés, ceux qui subissent et ceux qui travaillent pour l'entreprise. Puis, nous, on représente ce monde-là. Je le décris des fois un peu comme le cerveau et le cœur.
Mm-hmm.
Donc, le cerveau est en haut, le cerveau est en train de développer cette technologie-là, puis de concevoir toutes les possibilités qui peuvent en découler. Puis, il y a le cœur qui subit tout ça, puis qui, malgré lui, essaie de survivre, puis c'est ce qu'on côtoie pendant la pièce un peu, le cœur et le cerveau qui se débattent entre eux.
D'ailleurs, votre partition, c'est celle qui m'a touchée le plus profondément, direct au cœur. Et je parlais de distributions nombreuses, il faut les nommer, hein, Lamia Benassine, Frédéric Blanchette, Émilie Gilbert, Nina Laramé en alternance avec Madeleine Traversy, Vincent Guillaume-Motis, oui. Madeleine Sarr, Aimé Choucourou, Catherine-Anne Toupin, celle qui a écrit la pièce. Et
oui.
Ça a été mis en scène par Justin Laramé. Parlez-nous un peu là, de ce qu'on trouve sur la scène, parce que c'est quand même assez impressionnant. Là. On dit que vous empruntez certains codes au cinéma de science-fiction.
Oui, ben, Justin a fait une job hallucinante avec la partition qui... Ben, pas la partition, mais avec l'œuvre qui
ouais.
a été donnée, puis de trouver la façon de créer du suspense, de l'horreur, avec la musique aussi. Le décor qui est en soi un monstre, je veux dire, il est très imposant. Nous, quand on l'a vu pour la première fois en salle de répétition...
Vous avez eu peur du monstre?
Ben oui, on a eu peur de se faire avaler par ce décor-là.
Ouais.
On a eu peur de ne pas pouvoir ils survivent. Il était tellement grand qu'il n'y avait même pas le troisième étage parce qu'il était déjà dans le plafond. Fait qu'on pouvait pas. Fait que pauvre Justin, qui lui devait faire la mise en scène, puis il voulait créer ses images dans ce troisième étage-là, mais il pouvait jamais vraiment le voir parce qu'il était trop collé sur lui. Je crois qu'il y avait comme 3 pieds, 4 pieds de dégagement entre la fin de la scène puis lui où il était assis. Fait qu'il n'y avait jamais la possibilité vraiment pendant les 2 semaines qu'on était avec le décor en salle de répétition, la possibilité de voir vraiment tout dans sa...
Mais là, ça a été comme une contrariété.
Qu'est-ce que vous voulez dire par une contrariété?
Non, mais le fait qu'il ne pouvait pas voir l'ensemble...
Oui, ça compliquait beaucoup la tâche pour lui parce que, tu sais, vous avez vu le spectacle.
Oui.
T'sais, je crois que nous, en tant qu'interprètes, on n'a jamais vraiment compris le spectacle entièrement parce que c'est un spectacle d'image, c'est un spectacle où, oui, nous, on a notre partition, puis on joue, la musique joue aussi, mais le décor joue énormément, puis il y a beaucoup d'images qui en sont dégagées. Puis lui, puisqu'il ne pouvait pas tout voir constamment, ben ça, c'est juste quand on est rentré vraiment dans la salle où le décor a vraiment pris toute sa place, puis qu'il y avait du recul à cause de la salle, qu'il a vraiment pu aboutir son travail.
Oui, oui, aller au bout
de metteur en scène,
de la démarche.
Puis valider les images qu'il y avait trafiquées, puis travaillées. Puis oui, il y en a beaucoup qui s'étaient confirmés, puis il y en a d'autres qui a fallu qu'on se revire de bord, puis on change les idées. Puis c'était surtout dur, je crois, pour Vincent Guillaume, puis Catherine Anne, qui eux autres sont au deuxième étage, puis qu'il y a plus d'images qui se créent avec eux. T'sais, nous, au troisième étage, vu qu'on vit beaucoup dans le présent puis dans le moment, puis qu'on est vraiment en bas, il n'y a pas tant de choses qui ont changé pour nous.
Ouais.
Mais pour eux, il y a eu beaucoup de changements en rentrant en salle.
Et est-ce que la pièce pose une question fondamentale? On parle beaucoup de... ça pourrait être une question du genre être humain aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas aujourd'hui parce que ça se passe quoi, en 2047?
2047, 2050.
Oui, dans ces eaux-là. C'est quand même pas si loin, là, dans une trentaine d'années d'ici. Mais on s'interroge sur l'être humain.
Oui, on s'interroge sur l'être humain. On s'interroge surtout sur la place de la technologie
dans la vie des humains.
Dans nos vies, oui. Ouais. C'est-à-dire, je pas... Tu sais, il y a le personnage, puis... De Nina ou de Madeleine, le personnage de la petite qui hante un peu tout le monde. Mm-hmm. Puis c'est une métaphore aussi par rapport à l'obsession. Puis c'est ça, c'est comme... Tu sais, il y a... Récemment, il y a eu un sondage ou un article qui est sorti qui disait que les adultes, pas les enfants, mais les adultes passent plus de 4 heures sur leur téléphone à regarder des réseaux sociaux, à jouer des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais sur leur téléphone. Puis c'est 4 heures de temps perdu, puis j'en suis coupable, je dois être dans les 4 heures aussi facilement. Mais c'est ça, tu sais. Puis ça, c'est tout de suite, c'est pas encore comme installé partout, cette technologie-là. Puis où est-ce que ça va se rendre d'ici 25 ans? Combien de place ça va prendre? Puis effectivement, tu sais, en ce moment, la technologie, les réseaux sociaux sont axés sur la consommation. Donc, tu sais, on veut qu'on soit tout le temps dessus, en train de consommer. Il y a la fameuse phrase de Netflix qui dit... notre seule compétition, c'est le sommeil. Tu sais, c'est pour dire à quel point tout est axé à ce qu'on soit constamment sur ces engins, sur cette technologie-là, sur ces réseaux. C'est leur objectif, c'est pas qu'on décroche, c'est qu'on soit constamment dessus.
Oui, qu'on reste accro le plus longtemps possible. Mais c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter. Victor Andrés Treyes Turgeon, ça a été un plaisir de vous entendre, de vous recevoir à Canal M. Et j'invite les gens à découvrir Boîte Noire. On est loin du théâtre d'été ici. Une pièce qui frappe, qui est présentée chez Duceppe jusqu'au 22 février. Merci et puis bonne continuation.
Merci pour votre temps, puis je vous souhaite une bonne semaine.